avons donc, nous entamons la dernière section de ce colloque. Nous aurons cet après-midi trois exposés. Je vous propose d'avoir d'abord les deux premiers exposés. En premier, j'ai le plaisir de vous présenter Rainer Schlösser, qui est déjà habitué de nos réunions genevoises au niveau du colloque. Rainer Schlösser est professeur de linguistique à l'université d'Iéna, en Allemagne, et en même temps, pour faire une originalité aussi, directeur du musée de la Croix-Rouge près de Berlin, si je me souviens, que je n'ai pas encore visité. Alors, monsieur Schlösser va nous parler de Loeffler, de Gottfried Friedrich Loeffler, représentant de la Prusse aux conférences de Genève. Vous avez la parole, mon cher collègue.
Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs. C'est déjà plusieurs fois que dans les deux journées qui s'écoulent, on a mentionné le nom de Friedrich Loeffler. Donc je peux soupçonner qu'il est très connu, bien connu parmi les spécialistes ici, auxquels je n'ose pas me compter. Mais j'espère que pendant mon exposé peut contribuer à un détail ou autre détail nouveau qui s'ajoute à ce que vous connaissez déjà. Comme M. Van den Dungen, je n'ai pas de portrait de M. Loeffler, mais peut-être vous avez devant vos yeux la fameuse peinture d'Armand Dumaresque qui se trouve à peu de distance d'ici, dans l'hôtel de ville. Dans cette peinture, il y a un imposant personnage dans la partie gauche de la peinture, et cette personne, c'est M. Loeffler. L'exposé s'intitule Friedrich Loeffler, représentant de la Prusse aux conférences de Genève, je dirais plutôt maintenant aux conférences internationales, parce que je vais parler aussi sur la conférence internationale à Berlin, où Loeffler a participé en 1869. Mon exposé se concentre sur la biographie de Friedrich Loeffler et aborde son activité aux différentes conférences au début de la Croix-Rouge, voire la conférence préparatoire de 1863, la conférence de 1864, la conférence de 1868 pour actualiser la convention, toutes trois tenues à Genève, et la deuxième conférence internationale à Berlin. Il s'entend que l'exposé prend pour sujet particulièrement les ingérences personnelles de Friedrich Loeffler pendant les sessions des conférences et ses présentations des idées prussiennes envers les objets du débat, sans qu'il soit possible d'éclairer en détail le contexte dans lequel elle influence ou non le déroulement de la conférence. Une méticuleuse analyse du rôle qu'ont joué les délégués, en particulier des délégués médecins, qui sont au centre de notre colloque de ces deux journées, devraient en plus considérer leur fonction comme passerelle entre les conférences internationales et les comités nationaux et les armées nationales. Et chacun de ces hommes mériterait, comme vous l'aviez dit, bien une monographie que sera peut-être stimulée par ce colloque. Autre sujet qui n'est pas entamé explicitement dans cet exposé, c'est le rôle de Friedrich Loeffler dans l'organisation du service sanitaire dans l'armée prussienne. C'est déjà en conséquence de milliers de morts et de blessés dans la bataille de Solferino qu'en Prusse se sentait le besoin de réorganiser le service sanitaire, sentiment qui a grandi après les guerres contre le Danemark et l'Autriche en 1864 et 1866 respectivement. Et Friedrich Loeffler est un des personnages centraux qui exigeait et organisait cette réorganisation. Quelques mots sur la biographie. Friedrich Gottfried Franz Loeffler est né le 22 février 1815 à Stendal, ville importante de la marche de Brandebourg, plus précisément
mesdames et messieurs, s'il vous plaît,
vieille marche, allemand Altmark. Et donc du noyau historique de la future marche de Brandebourg et du royaume de Prusse. Dans la même année, 1815, où Loeffler est né à Stendal, les participants au congrès de Vienne décident que la vieille marche passe du royaume de Westphalie, dont elle avait fait partie tant qu'il existait, à la Prusse. Les amateurs d'art sauront que la ville a vu naître le fameux Winckelmann, et aux amateurs de la littérature française sera bien connu que c'est la ville de Stendhal qui incite le romancier Marie-Henri Bell à adopter son pseudonyme Stendhal. Son éducation scolaire commence à Stendal même. À l'âge de 18 ans, Loeffler entre dans l'Institut Friedrich-Guillaume à Berlin. Cette institution, fondée en 1795 sous le nom de la Pépinière, est rebaptisée en 1818 d'après Friedrich-Guillaume II, roi de Prusse, s'efforçait de combiner les études de la médecine avec des compétences militaires. Ayant terminé leur formation après 4 années, les étudiants s'obligeaient à un service militaire dans la foulée, recevaient en plus une solde. Les études étaient gratuites, ainsi s'offrit la possibilité d'une carrière en médecine, même aux candidats de familles moins riches. Il ne faut pas négliger ces conditions, vu que le père de Loeffler était un boucher de son métier. C'est donc en 1837 que Loeffler a terminé sa formation et il se précipite à monter les échelons de la hiérarchie professionnelle. Dans la même année 1837, médecin à l'hôpital de la Charité à Berlin, ce qui signifie le début du service militaire, et doctorat en médecine. Nommé médecin capitaine, Allemandstabsarzt, en 1847, Oberstabsarzt en 1849 et finalement médecin général en 1860. Au printemps de 1867, il fut appelé de la fonction de vice-directeur de son ancien institut et en automne de la même année, il fut nommé professeur de chirurgie militaire. Loeffler fait ses classes de guerre dans les conflits militaires des années qui suivent, dans la guerre contre le Danemark en 1864, dans la guerre contre l'Autriche en 1866, quand il a vu la bataille de Königgrätz, et finalement la guerre franco-prussienne. Avant leur rencontre à Genève en octobre 1863, Loeffler avait déjà fait la connaissance de Dunant. C'était par le truchement de Friedrich Loeffler que Dunant, lors du congrès de statistique à Berlin en septembre 1863, fut reçu par le comte Albrecht von Roon, à l'époque ministre de guerre de la Prusse, pour lui exposer son idée. La réaction du ministre était encore assez réticente, mais après la fondation d'une société prussienne de secours aux blessés militaires en février 1864, fondation qui a été promue notamment par la calme diplomatie de Friedrich Loeffler, le même von Roon déclare, citation, qu'à son avis, la société pourrait rendre de grands services sur le champ de bataille même, en relevant avec son personnel les blessés après les combats. C'est avant tout grâce à ce congrès de statistiques que je viens de mentionner que les États allemands, parmi les participants de la conférence préparatoire de 63, c'est-à-dire Bade, Bavière, Hanovre, Hesse, Saxe et Württemberg, sont en résumé les plus disposés à s'impliquer dans l'idée de Dunant. Pour défendre les conceptions du royaume, la Prusse, c'est-à-dire son ministre de guerre, le général von Roon, avait délégué Friedrich Loeffler, qui est accompagné par le docteur Karl Husserl, conseiller intime et membre du ministère des Affaires médicales. Resté à Berlin sans le docteur Böger, médecin particulier du roi, et le major Schweinitz, aide du camp du prince royal de Prusse, mais les deux figurent parmi les adresses de sympathie qu'Henri Dunant lie à l'Assemblée à Genève. Déjà en 1863, c'est la neutralisation des infirmiers qui découvre le désaccord des délégués. Loeffler démontre son inclination à une neutralisation de longue portée et pour corroborer la magnanimité prussienne cultivée par les temps, il cite un traité conclu par Frédéric le Grand dont je veux vous lire les deux articles qu'a cité aussi Friedrich Loeffler à l'Assemblée de Genève. Citation du contrat par Frédéric le Grand. Qu'on prendra soin des blessés de part et de l'autre, qu'on paiera leurs médicaments et leur nourriture et que les frais en seront restitués de part et d'autre. Qu'il sera permis de leur envoyer des chirurgiens et leurs domestiques avec des passeports des généraux, qu'au surplus, ceux qui auront été faits prisonniers, comme ceux qui ne l'auront pas été, seront renvoyés sous la protection et sauvegarde des généraux, avec liberté d'être transportés par eau ou par terre, suivant la plus grande commodité et convenance des lieux où l'on sera, et par le plus court chemin, à condition toutefois que ceux qui étaient prisonniers ne serviront pas, après avoir été échangés ou achetés, le deuxième article, que les malades de part et de l'autre ne sont point faits prisonniers, qu'ils pourront rester en sûreté dans les hôpitaux, où il sera libre à chacune des parties belligérantes ou auxiliaires de leur laisser une garde, laquelle, ainsi que les malades, seront renvoyés sous des passeports des généraux par les plus courts chemins et sans pouvoir être troublés ni arrêtés. Il en sera de même des commissaires de guerre, aumôniers, médecins, chirurgiens, apothicaires, garçons infirmiers, servants et autres individus affectés au service des malades, lesquels ne pourront être faits prisonniers et seront pareillement renvoyés. Fin de la citation. Sachant que le traité a été conclu entre la Prusse et la France, Leffler reproche aux délégués français, qui s'opposent le plus vertement à la neutralisation, de manière indirecte, leur attitude de refus. Il exprime son espoir que la conférence contribue à la renaissance de l'humanisme pratiqué par Feuillroy, mais dans une proposition subordonnée, il cache ce qu'est sous-entendu par Leffler, que la neutralisation ne s'étende pas sur les infirmiers privés sur le champ de bataille. Et il y a d'autres signes de dispute prudent entre l'allemand Leffler et son collègue français, peut-être de toute petite annotation à l'inimité héréditaire qui persistait à l'époque entre les deux pays. Le même jour, Leffler explique sa position concernant un uniforme ou un signe pour les membres du service sanitaire. Il refuse le premier, mais applaudit au second et souligne que c'était lui-même qui avait fait telle proposition quelques années auparavant dans un journal prussien de médecine militaire. Dix mois après cette conférence préparatoire, le comité de Genève invite les gouvernements qui se sont révélés ouverts au grand but de nouveau à Genève. On sait que 16 gouvernements ont suivi cette invitation, dont 12 signent le 22 août 1864 la première convention de Genève. Leffler signe le document en tant que plénipotentiaire du roi de Prusse. Il est accompagné par M. von Kamptz, conseiller privé de légation et ministre résident en Suisse, et par M. Ritter, conseiller privé au ministère de guerre. Les organisateurs de la conférence avaient envoyé une ébauche aux participants de la conférence. Un problème éminent à discuter était toujours celui de la neutralisation des infirmiers volontaires. Leffler ne réussit pas à convaincre la majorité des participants de son avis que le principe de la neutralisation s'étende sur les infirmiers volontaires. C'est avant tout la délégation française qui s'y oppose de manière acharnée. Leffler est représentant à la conférence aussi de Genève du 5 au 20 octobre 1868. Le but de cette conférence est celui d'améliorer la convention de Genève. Cette fois, Leffler ne représente pas la Prusse, mais la Confédération de l'Allemagne du Nord, qui s'était formée à la suite de la guerre entre la Prusse et l'Autriche en 1866. Il était accompagné par les messieurs von Röder, général de corps d'armée et ministre de la Confédération de l'Allemagne du Nord en Suisse, et Köhler, capitaine de vaisseau, ce dernier président de la commission spéciale qui devait s'occuper de la question d'étendre sur la guerre de mer le secours garanti par la Convention de Genève. Question qui était un des deux points à l'ordre du jour à exécuter en premier. Leffler démontre de nouveau que la Prusse est prête à prendre la parole pour déplorer que le secours aux blessés est considéré comme possible, mais non pas comme garanti. Et il s'oppose aux propositions qui remettraient le destin des blessés au bon gré des généraux. Du 22 au 27 avril 1869 a lieu à Berlin la deuxième conférence internationale de la Croix-Rouge. Dans la capitale de Prusse se rassemblent 162 délégués de 28 pays. La Prusse elle-même est représentée par 90 délégués, parmi eux les représentantes de l'Association patriotique des Dames de la Croix-Rouge, en tête sa présidente, la comtesse Charlotte von Itzenplitz. Friedrich Leffler, délégué par le ministre de la Guerre et qui n'avait pas participé à la première conférence internationale à Paris en 1867, figure de nouveau parmi les délégués. L'ordre du jour de cette conférence limite et forme des activités des sociétés de secours pendant les guerres de terre, secours volontaire dans les guerres de mer, activité des sociétés de secours pendant les temps de paix, discussion de propositions précédentes, des conférences précédentes, établissement d'un musée qui expose du matériel sanitaire, fondation d'un journal international, établissement d'un bureau de correspondance pendant le temps de guerre et périodisation des conférences internationales. Dans le cadre de ce programme de la conférence, Loeffler avait été nommé correspondant pour le premier point à l'ordre du jour, qui s'occupait des activités des sociétés de secours pendant les guerres de terre. Dans son récit, Loeffler souligne des idées essentielles sur lesquelles se fondent les activités en Prusse. Il exige que même si les sociétés de secours étaient inclinées à adopter des tâches en temps de paix, elles auraient cependant la plus noble et plus urgente obligation de se préparer à la guerre. Il continue, pour atteindre ce but, il faut se mettre d'accord comment les sociétés doivent agir en cas de guerre. Il reprend des idées qu'il avait déjà présentées au nom de la Prusse en 1963 et qui ont mûri au cours des expériences de deux guerres, la guerre de 64 contre le Danemark et de 66 contre l'Autriche. Loeffler refuse l'idée qui prévoit sur les champs de bataille même la présence d'ambulances non militaires mais privées, organisées par les sociétés de secours. Et il en énumère les désavantages. Ces ambulances privées devraient, déjà en temps de paix, être munies de matériel et de personnes, également aux ambulances militaires, fait qui causerait toute une série d'autres problèmes. Et Loeffler rappelle l'accord que les États membres de la Convention de Genève ont pris l'année précédente, selon laquelle les ambulances militaires de la partie vaincue s'attachent aux ambulances de la partie victorieuse pour les soutenir dans leurs soucis pour les blessés. Cette innovation rendra superflues les ambulances privées sur le champ de bataille et leur assignera des missions derrière le front. Menés par les mêmes motifs et en mentionnant des expériences qu'a vécues l'ordre de Saint-Jean, Loeffler refuse aussi des ambulances privées à l'étranger. Enfin, selon Loeffler, il va de soi que les ambulances nationales coopèrent malgré les batailles et pendant les batailles de leurs armées respectives. Il finit son récit par l'énoncer qu'il le considère élémentaire pour la mission des sociétés de secours. L'ennemi blessé, l'ennemi malade cesse d'être ennemi. Au cours de la conférence, il y a plusieurs autres occasions où Loeffler prend la parole et il se révèle participant actif, influent et compréhensif. Le comité de Genève avait proposé une plaque d'identité pour les combattants, mais cette proposition n'a pas encore été discutée par les États membres de la Convention. Loeffler reprend cette proposition et informe qu'elle a déjà été réalisée par la Prusse et qu'en cas de mobilisation en Prusse et en Allemagne du Nord, une telle plaque est remise à tous les soldats. On discute aussi sur la question si l'on permettra au personnel sanitaire de porter des armes. Le délégué russe souligne que le comité central russe a décidé avec unanimité que le personnel des sociétés de secours n'est point muni d'armes. Loeffler réplique qu'en Prusse, les médecins militaires portent bien des armes parce qu'ils sont des soldats. Les deux délégués semblent ne pas se rendre compte de ce qu'ils parlent de choses différentes. Un point à l'ordre du jour qu'on avait discuté à la conférence de Paris, à laquelle Loeffler n'a pas pris part, intéressa en particulier les auditeurs qui ont quelque chose à voir avec les musées de la Croix-Rouge. À Paris, le président, comte Serrurier, avait proposé qu'on devait établir un musée international où l'on présenterait tout cela qui était nécessaire pour les soins donnés aux blessés et aux malades. Ce musée était élevé à Paris. Grand nombre des participants n'étaient pas d'accord et a conseillé d'ériger d'établissements locaux dans les différents pays. La Prusse semble avoir suivi ce conseil et Loeffler invite les délégués de Berlin de visiter le musée du secours pour les blessés militaires qui est installé dans le Friedrich Wilhelm Institut, l'institut où Loeffler s'était formé en médecin d'armée, institut médical au cœur de Berlin. Loeffler et le comte Serrurier seraient ravis s'ils savaient qu'il y a non seulement les musées internationaux à Genève et à Castiglione, non seulement le musée Henri Dunant à Haydn, mais qu'il y a toujours, sans qu'il y ait un rapport avec le prédécesseur, un musée de la Croix-Rouge à Berlin qui a ses semblables en 15 autres endroits en Allemagne. L'Assemblée de Berlin décide qu'un journal international soit fondé au sein du comité de Genève en proposant que l'aspect financier d'un tel journal soit discuté entre le comité de Genève et les comités nationaux. Loeffler évite que surgisse un débat au plénum. La prochaine conférence internationale est fixée en 1871 à Vienne. Les circonstances historiques l'empêchent à voir sa réalisation et il faut attendre l'an 1884 que la troisième conférence internationale aura lieu à Genève. Loeffler était mort en 1874 et pendant la cérémonie inaugurale à Genève, l'Assemblée le commémore, citation, parmi ces nobles âmes qui nous ont quittés. Pour conclure, quelques mots sur la descendance de Loeffler. La tradition médicale dans la famille Loeffler continue avec le fils de Friedrich Loeffler, qui portait le même nom, qui a vécu de 1852 à 1915. Mais développer ses activités sur un terrain tout à fait différent de celui de son père. Il était professeur d'hygiène à l'université de Greifswald, en Poméranie antérieure. Au début de sa carrière, Loeffler fils voulait suivre les pas de son père. Lui aussi, il a commencé à étudier la médecine militaire à l'Institut Frédéric Guillaume et devient médecin militaire. Mais peu après, il prend toute autre direction et s'occupe de la médecine vétérinaire. C'est Loeffler qui a trouvé l'agent pathogène de la fièvre aphteuse, en allemand, Malungklauenseuche, espagnol, Glossopeda, et comme il y avait, après ses expériments médicaux, beaucoup de cas de cette maladie dans la région, le gouvernement le pressait de continuer ses travaux sur cette maladie contagieuse dans un espace plus isolé. Et Loeffler établit son institut sur l'île de Rins, pas loin de Greifswald, situé dans le Greifswalder Bodden, une baie de la mer Baltique. Le Friedrich Loeffler Institute existe toujours en tant qu'office fédéral de recherche pour la santé des animaux. Il porte le nom de son créateur, mais les initiés font le lien familial entre l'Institut de recherche d'aujourd'hui et les origines de l'époque de la Convention de Genève. Je vous remercie.
Merci pour cet exposé qui nous a appris beaucoup de choses, comme les autres d'ailleurs. Et ce qui était évidemment, c'est votre conclusion qui est plus que surprenante, évidemment, comment on passe évidemment de la médecine militaire à la médecine animale, n'est-ce pas? C'est plutôt une forte tendance de nos jours, n'est-ce pas, de s'occuper des animaux et de leur protection. Arrive maintenant une deuxième intervention, aussi d'un collègue allemand, Stéphane Schaumann, qui est journaliste, mais aussi historien de la Croix-Rouge allemande. C'est une œuvre en cours, si j'ai bien compris.
Oui, c'est vrai, mais je suis seulement historien amateur.
Amateur, ben on verra. Et vous nous faites un exposé sur Abdullah Abay, 1874, un médecin sur le Diwan occidental-oriental. C'est, je pense, un Allemand exilé.
Autrichien.
Autrichien,
ouais.
Voilà.
J'avais raison. Bonjour. J'aimerais de vous parler d'un des pionniers oubliés de la Croix-Rouge, Abdullah Bey, qui était le fondateur principal de la Croix-Rouge turque en 1868. Et bien entendu, c'était à ce temps-là, c'était la Croix-Rouge turque. C'était pas le Croissant Rouge qui était fondé recréé 8 ans plus tard. À ce temps-là, c'était vraiment il y avait une Croix-Rouge turque. Donc je vais ajouter un peu d'orientalisme, d'exotisme à notre conférence en parlant de la question d'Orient comme Monsieur Lescaze l'a déjà mentionné. Il y a quelques mois, j'ai fait des recherches aux archives du CICR, ici, sur les premières années de la société de Württemberg. Mais dans le grand dossier, ou classeur, on dit, il y avait d'autres dossiers, Württemberg, en ordre alphabétique, Württemberg, Venezuela, Uruguay, la Turquie et la Suisse. Et donc, j'ai lu Württemberg, mais je pensais peut-être la Turquie, c'est peut-être plus intéressant. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et parce que je me souviens d'un tout petit note que j'ai trouvé dans un des journaux contemporains de la Croix-Rouge allemand de 68, je crois, sur la fondation du Croix-Rouge turque par Abdullah Bey, ehemals Dr. Hammerschmidt, ci-devant Dr. Hammerschmidt. Et c'était tout. Mais c'était assez pour piquer ma curiosité. Et donc, j'ai commencé quelques recherches. Abdullah Bey, ça semble un nom typiquement turc, même stéréotype. Mais Hammerschmidt, c'est pas turc, pas du tout. Il était autrichien. Il est né à Vienne en 1801. Il semble que la famille vient de l'Hongrie, plus précisément de la Transylvanie. Il était médecin, mais pas d'origine et pas seulement. Il avait plusieurs talents. Il était juriste, botaniste, minéralogiste et entomologiste et médecin. Donc, c'était bon, peut-être on peut lui appeler un naturaliste. C'était un type de chercheur d'une autre époque, de l'époque Biedermeier. C'était peut-être suivant l'idéal de Humboldt, un savant universel. Et donc, à ce temps-là, c'était encore possible d'être généraliste. Et donc, il était très productif dans tous les domaines que j'ai mentionnés. Il a fait des études botaniques à Brno, en Moravie. Et je ne peux pas le prouver, mais je pense, ou il me semble possible, bien possible, qu'il a connu Gregor Mendel. Le futur fondateur de la génétique, parce que Mendel, en même temps, a fait des études botaniques et agriculturelles à Brünn aussi. Après, Hammerschmidt revient à Vienne, il devient médecin, ou peut-être on peut dire médecin-chercheur. Il était un pionnier de la narcose, de l'éther. Il a utilisé l'éther avec un dentiste. Il a fait toute une série des expériments. 1500 narcoses avec l'éther qu'il préférait au chloroforme. Et à ce temps-là, le chloroforme était à la mode. C'était le médium préféré. Mais plus tard, on a réalisé que l'éther est moins dangereux pour les patients. Donc il était vraiment avant-garde comme chercheur. Malheureusement, sa carrière scientifique était interrompue par la révolution de 1848. Il était progressif, il était pour les révolutionnaires, il a participé à la révolution. Et il était à Budapest. Et il se joint avec Lajos Kossuth, le révolutionnaire hongroise. Et avec son armée, Kossuth, il se bat dans l'est de Hongrie, dans Transylvanie, où la famille de Hammerschmidt origine. Et donc il perd. Et après. Ce qui se passe, c'est beaucoup des révolutionnaires, notamment les officiers et les intellectuels, ils demandent asile en Turquie. parce que la Turquie, la frontière, c'était des voisins. Et donc, il y avait des négociations avec, pas avec le sultan, mais avec le gouvernement turc. Et donc, ils ont dit, bon, venez, mais une seule condition, vous devenez musulman. Et donc, tous ces gens, peut-être 100, un groupe de 100 gens, a converti à l'islam. Ils préfèrent ça à devenir des réactionnaires autrichiens. Et donc, et ça, c'était le moment où Karl Ewald Hammerschmidt devient Abdullah Bey et il se fait pousser une barbe ici. Et donc, à Constantinople, il travaille comme médecin militaire. Donc, le titre, c'était colonel médecin d'état-major major de l'hôpital de la garde impériale. Et à ce temps-là, c'était vraiment Constantinople. Le sultan résidait à Constantinople. Ce n'était pas Istanbul, le nom officiel Constantinople. Et j'ai aussi trouvé une correspondance avec Izmir, mais ce n'était pas Izmir, c'était Smyrne. Donc, toute une autre époque. En général, on peut dire que c'était une époque, pour la Turquie, une époque assez cosmopolite, assez ouverte pour l'Empire, au moins dans les grandes villes, et notamment à Constantinople, et pas très nationaliste ou chauviniste. On avait gagné la guerre de la Crimée, on a eu des bonnes relations avec la Grande-Bretagne, la France, l'Italie. Donc, il me semble qu'à ce temps-là, la Turquie cherchait une identité peut-être plus européenne, plus internationale. Et donc, c'est pourquoi c'était une période assez productive dans l'histoire de la Turquie. Et d'ailleurs, Hammerschmidt, il a participé comme médecin dans la guerre de Crimée. Il publie dans des journaux scientifiques, il devient membre de diverses sociétés académiques en Europe, il devient le fondateur de la Musée naturel à Constantinople, il devient professeur de la faculté médicale, donc il continue ses études et ses recherches généralistes naturalistes. Il fait aussi des expéditions en Turquie, surtout minéralogique, géologique. Et donc, en 1867, il participe à l'exposition mondiale à Paris comme délégué ou comme commissaire turc. Il participe à la seconde conférence internationale, congrès international de la Croix-Rouge. Et c'est là où il prend la décision à la Turquie. Il faut fonder une société aux blessés. Et je pense, mais c'est seulement une intuition, que peut-être sa source la plus importante d'inspiration, c'était un autre pionnier oublié, c'était le baron Mundi, Jaromir Mundi, qui était autrichien aussi, et qui était un des fondateurs de la Croix-Rouge autrichienne, mais aussi une force très importante dans la formation de la Croix-Rouge française. Et donc, ça, peut-être c'était une sorte de partenaire ou d'adversaire de Hammerschmidt. Hammerschmidt, il fait des liaisons, il retourne, il commence à fonder une société de secours aux blessés. Il cherche et il trouve haute protection. C'était le généralissime des armées ottomanes, mais quand même, c'était très très difficile de fonder une telle société à Constantinople pour lui. Il écrit à Moigné, je cite, « Sans aucun appui et presque découragé par le mauvais augure de certains hauts personnages qui ont récusé leur secours pour cette œuvre. » Donc, il est évidemment frustré, il est fatigué par toutes ces intrigues. Et on pourrait imaginer, ah oui, c'est pas facile en Turquie, pays musulman avec la croix et le symbole, mais ce n'était pas le cas. Parce qu'il écrit aussi à Moigné que ses adversaires, c'était des personnages très chrétiens. Donc ce n'était pas une chose religieuse, au moins pas entre l'islam et la chrétienté, mais entre les différents chrétiens orthodoxes, protestants, catholiques à Constantinople. La société membre ottomane est enregistrée en tant que Croix-Rouge le 11 juin 1868. Et avec ça, Hammerschmidt, il ouvre deux nouveaux continents pour la Croix-Rouge, pour le mouvement. Parce qu'avant, c'était seulement l'Europe et peut-être les États-Unis, mais maintenant, il y a l'Asie et aussi l'Afrique. Parce que c'était à Sotoma, c'était vraiment l'Empire ottoman, très, très grand. C'est très intéressant que la Turquie a ratifié la convention très tôt, déjà en 1865, juste après la Prusse et avant le Württemberg, par exemple. Donc c'était, je crois, peut-être le 9e ou 10e pays qui a vraiment ratifié la conférence. Mais ils n'ont pas eu une société nationale jusqu'en 1868. Et dans la première déclaration, la société met en évidence que, je cite, que l'existence d'une société pareille démontrera à l'Europe entière l'intérêt que le gouvernement et le public portent au développement de l'humanité. Alors c'est une déclaration assez moderne, je trouve, spécialement cet aspect de le public, donc même dans une despotie orientale comme la Turquie à ce temps-là, le public c'était quelque chose. Et donc ça aussi, ça montre le désir de la Turquie de devenir un pays moderne et plus européen. Abdullah Bey, il exerce la fonction d'un secrétaire général provisoire. Et dans le comité, on trouve beaucoup de médecins comme lui, militaires et civils, et pour la plupart, il me semble, des étrangers comme lui, ou des membres des minorités, par exemple les Turcs, les Grecs en Turquie, peut-être quelques Juifs des Arméniens. J'ai seulement quelques noms, et on ne peut pas toujours avoir confiance aux noms, parce qu'on a vu l'exemple d'Abdullah Bey, mais il y a quelques noms qui sont évidemment sont grecs, Dr Speraki Bey, Dr Nikolaki Bey, Dr Konstantin Limonides et Konstantin Antolopoulos, attachés au ministère du Commerce. Il y a un docteur De Castro, je crois Luis De Castro, médecin en chef de l'hôpital, un docteur De Soto, docteur Bélisère, docteur Mutiade, docteur Pascal Bey, docteur Mavrogini, professeur, un monsieur Hartart, privatier, et un monsieur Courlander, marchand. Donc c'était beaucoup aujourd'hui on dit des experts, des étrangers professionnels dans le service turc. Je pense que la plupart des médecins étaient probablement les médecins des ambassades, de la colonie italienne, de la colonie française, de la colonie anglaise à Constantinople. Mais il y a aussi quelques noms turcs. Donc c'est une mixture, mais pour la plupart européenne. Donc c'est le comité, mais la société était plus grande. La société avait compris environ 50 personnes, et 10 d'eux étaient des femmes. Voilà, en Turquie, dans le 19e siècle, 20% femmes, c'est remarquable. C'est peut-être ce caractère cosmopolite qui explique pourquoi, au début, il n'y avait pas de problème avec le signe, avec la croix, le symbole religieux. Mais il y avait des problèmes d'énergie. Au début, la société On se réunit une fois par mois dans la pharmacie impériale à Béchiktach. Mais déjà l'année dernière, prochaine, il n'y a pas de traces de la société, au moins il n'y a pas de correspondance avec Genève ou avec d'autres sociétés. On ne sait pas grand-chose si cette société a vraiment fait des activités. Ce que je le sais, c'est que Hammerschmidt, il meurt en 1874. Et donc, il semble que cette première société a seulement vécu très, très courte. En même temps, c'est intéressant, peut-être vous souvenez que Henri Dunant, il a essayé d'être envoyé à Constantinople comme adversaire ou comme délégué par l'ambassade allemand. C'était part de son projet avec Palestine et tout ça, et ça n'a pas fonctionné, mais c'est un autre essai de communiquer avec la Turquie et de peut-être rapprocher l'Europe et la Turquie. La correspondance avec Constantinople et Genève recommence en 1876. La guerre avec la Serbie éclate, une guerre d'indépendance, et un des premiers pas de cette indépendance pour la Serbie était la fondation d'une Croix-Rouge serbe. Et après, pendant la guerre, les Serbes reportent à Genève que leurs ambulances étaient souvent attaquées. Et pas par hasard ou par erreur, mais délibérément. Parce que, évidemment, les soldats turcs, ils pensent que c'est un symbole religieux, même une provocation, et donc ils attaquent le symbole, ils attaquent les médecins. Et en même temps, parce que peut-être la culture ottomane se souvient des croisades, parce que dans les croisades, les chevaliers, ils ont eu une croix rouge sur l'épaule droite. Et donc, peut-être c'est un exemple pour cette longue mémoire d'une culture. Et en même temps, la Suisse, le gouvernement suisse, reçoit une note de la Porte Sublime, parce que la Suisse était le dépositaire-staat, l'État dépositaire, le dépositaire de la Convention. Et donc, le sultan, la Porte Sublime, déclare qu'on a dû changer le symbole. Pas une croix, mais un croissant. Pourquoi? Parce que le travail de la société, je cite, était, de la société turque, était paralysé par la nature même du signe distinctif de la Convention de Genève, qui laissait les susceptibilités du soldat musulman. Donc une question de sensibilité culturelle ou religieuse. Et à cause de ça, on va continuer juste en substituant seulement le croissant à la croix rouge. Et j'aime très bien le seul mot, parce que c'était, en vérité, c'était pas une petite chose. Ça causait un grand scandale, des grandes irritations diplomatiques, pas seulement entre le comité international et la Turquie, mais il y a toute une correspondance entre Bismarck, entre Berlin et Pétersbourg, une grande controverse diplomatique. Ça ne va pas, et on ne peut pas changer les contrats et tout ça. Mais comme vous le savez, le croissant est devenu le nouveau symbole de la société turque. Et après, on peut imaginer que les troupes, les soldats serbes, ont eux-mêmes attaqué ce nouveau symbole, le croissant, parce qu'ils ont pensé que c'est un symbole du gouvernement officiel. Donc c'est un grand, grand chaos dans la guerre. Pendant mes recherches, j'ai trouvé une sorte de principe que quand il y a des grands changements dans une société, dans un pays, dans un temps, la Croix-Rouge sert souvent comme une sismographe, un indicateur de ces grands changements qui, peut-être à ce temps-là, sont pas tout à fait visibles, se préparent et après deviennent réels et visibles. Toute cette fondation d'un croissant rouge, à mon avis, c'est un exemple de cette qualité sismographique de la Croix-Rouge. Donc, le fait seulement qu'on a recréé une société, on peut déjà penser que quelque chose s'est passé là-bas. Comme Goethe a dit, weit hinten in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen. Dans le Faust, il parle qu'en très loin d'ici, en Turquie, le peuple se combatte. Merci, Rainer Schlösser, pour l'assistance. Donc, c'était des événements très loin, mais très forts. Qu'est-ce qui s'est passé en Turquie? J'ai eu aucune idée, mais maintenant je sais un peu plus. En 1976, on a eu une banqueroute de l'État ottoman. Pendant 7 ans, 1 an, la Turquie a vu 3 sultans. Donc beaucoup de chaos, de révolutions, des putsch militaires, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de forces, des conflits. Hammerschmidt, il est déjà mort, heureusement, on peut dire, parce que après, le pays change, la Turquie devient de plus en plus nationaliste, chauviniste, militariste. Il y avait plusieurs guerres avec la Russie, encore une fois avec la Serbie, avec la Bulgarie. Il y avait en 1895 les premiers grands massacres des Arméniens, et notre ami spécial Henri Dunant, un des derniers commentaires de lui qu'on a, c'est un commentaire sur les massacres. Il est très furieux, il est fâché, il parle de la sale race humaine. Donc c'est toute une autre période. Et Hammerschmidt, lui, il appartient d'une autre époque, de l'époque Biedermeier, qui était, il me semble, un peu plus savant, un peu plus raisonnable et aussi un peu plus humain. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Schaumann, pour cette incursion du côté de l'Orient, le pays où mille mirages et complexités. Donc, vous nous montrez là aussi effectivement tous les tâtonnements de l'avancée de l'idée Croix-Rouge en direction de cet énorme espace, n'est-ce pas, comme vous l'avez dit, qui va de l'Asie à l'Afrique, à l'Europe, à l'époque, et sans doute là. Il y aurait pas mal de choses à discuter sur cette Turquie, sur ce changement aussi de dénomination. Si j'ai bien retenu les dates, ça arrive vraiment au moment de la guerre russo-turque. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que quand on a une guerre pareille sur le dos et qu'on est lâché par les puissances qui vous avaient protégé 20 ans auparavant dans la guerre de Crimée, l'Angleterre et la France, contre la Russie, et là, effectivement, l'Empire ottoman se retrouve un peu bien seul à affronter le grand empire russe qui recherche à tout prix ses compensations. Donc ça explique pas mal de choses, on pourra en discuter longuement. Alors, questions à propos de nos deux exposés de cette première partie de l'après-midi, sur d'abord l'exposé de M. Schlesser, et puis une question parallèle à notre deuxième intervenant de tout à l'heure. On reste effectivement vers le centre de l'Europe et de l'Orient. On a quitté l'Occident, d'une certaine façon. Alors, quelles seraient les questions du public? Madame Nation.
Merci. Alors, j'ai une question pour Monsieur Schumann. Merci pour votre évocation de ce personnage qui m'avait si intrigué lorsque j'avais rencontré au détour d'une lettre à Abdullah Bey, évidemment, à Hammerschmidt. Et justement, j'avais lu une lettre de Dunant aux archives du CICR qui mentionnait qu'il avait rencontré justement Dr Abdullah Bey à Paris et qu'il allait fonder la Croix-Rouge. Donc vous nous avez expliqué qu'il avait été notamment à Paris lors de l'exposition universelle, qu'il y avait aussi cette source pour Abdullah Bey, enfin Hammerschmidt, qui était ce baron autrichien. Et je me demandais quelle avait été la part de Dunant justement dans l'évolution de Hammerschmidt. S'il y avait eu une part de Dunant, parce que c'était quand même tout au milieu quand il était à Paris. Et d'ailleurs, ensuite, quelques années plus tard, moi je ne me rappelle plus exactement, Moigné le rencontre de nouveau à Florence. Et il y a quand même un ton un peu condescendant, par exemple dans la part de Moigné par rapport à ce docteur Abdullah Bey. Donc ils savent pas. On voit un peu ce côté exotique, et je me demandais quelle avait été la part justement de Dunant dans l'évolution, si part il y avait ou pas du tout, c'était l'effervescence de Paris, etc., qui avait eu en rôle, étant donné que vous nous avez bien démontré le côté cosmopolite où vivait justement Hammerschmidt.
Je pense que c'était le seul contact entre Dunant et Hammerschmidt à Milan, parce que...
Oui, je pense que c'est probablement le seul contact entre Dunant et Hammerschmidt, parce que déjà pendant l'exposition mondiale, Dunant devient persona non grata, c'était le premier procès ici à Genève, et donc je ne pense pas qu'après Hammerschmidt, quand il a eu quelques questions officielles concernant la Croix-Rouge, il peut s'adresser à Dunant. Et c'est mon hypothèse, je ne sais pas, mais j'ai rien trouvé qu'il mentionne Dunant. Il correspond avec Moigné pas régulièrement, mais il y a quelques lettres et des documents officiels, mais pas avec Dunant. Peut-être Dunant, quand il vraiment, ce rêve de devenir une sorte d'ambassadeur de la Croix-Rouge à Constantinople, il aurait contacté Hammerschmidt, mais rien ne s'est pas se passer. Donc, je pense que c'était tout.
D'autres questions ? Ou intervention, remarque, François.
Merci, j'ai été très intéressé par votre présentation, notamment à cause de la question de l'emblème dont je me suis pas mal occupé. Vous avez dit qu'à l'origine, la société avait été constituée comme société de Croix-Rouge et qu'elle a changé d'emblème en 1876, diraient les Français. Je pense que vous avez raison. J'en suis même persuadé, mais vous êtes probablement conscient que vous vous inscrivez en faux par rapport à la position officielle du croissant rouge ottoman, enfin aujourd'hui du croissant rouge turc, qui assure par tous les saints du paradis, si j'ose dire, que ça a toujours été un croissant rouge. Je pense que vous avez raison, parce qu'il y a une lettre de Péché d'Imalji, qui reprendra le rôle qui avait été celui d'Abdullah Bey en 1876 à Moignet, donc la fondation, la renaissance de la société, et qui dit, d'ailleurs c'est peut-être cette question de l'emblème qui a entraîné la mort de la première société. Donc ça c'est une preuve. Est-ce que vous avez trouvé d'autres documents qui attestent que c'était, qu'elle utilisait l'emblème de la Croix-Rouge?
Je n'ai pas vu le croissant avant 1976. Peut-être, c'est possible qu'on a, peut-être on a essayé de trouver un compromis. Peut-être qu'on a utilisé la croix et le croissant.
Non, je ne pense pas.
Non, j'ai aucune information.
Vous n'avez pas de... Vous ne connaissez pas d'autres preuves que l'absence d'utilisation de mention du croissant, d'accord. Et le fait que l'Empire ottoman ratifie la convention de 64 sans faire de réserve. Or, la convention mentionnait l'emblème. Donc, il y a cet élément-là. Et puis, il y a cette lettre qui doit être de 76 ou 77 de M. Péché-Limagi. Ok, merci.
Mais c'est une question. C'est une question extrêmement intéressante, mais qui s'explique aussi du fait que l'Empire ottoman de l'époque, juste parce qu'il y aura une contre-révolution qui va suivre la défaite, était un empire vraiment multiconfessionnel, avec égalité en plus de toutes les religions, y compris des juifs, qui étaient encore uniques par rapport à cette région, ni en Russie, ni en Allemagne, encore, même en Suisse, pas intégralement l'égalité des juifs par rapport aux autres populations. Point de vue, évidemment, ethnico-religieux. C'était assez défini. Ça serait peut-être une clé d'explication. Alors, d'autres remarques, d'autres questions? Observations? Oui, monsieur.
Il s'adresse à Rainer Schlosser. Il a fait allusion au fait que Friedrich Loeffler a été délégué du royaume de Prusse, c'est bien ça? C'est comme ça qu'on l'appelait? Et de la Confédération du Nord.
L'Allemagne du Nord, ça c'est
l'Allemagne du Nord.
Norddeutsche Bund en allemand.
Voilà,
donc
qui comprenait.
C'est la Confédération des États allemands du Nord,
oui.
Qui était au début de l'Empire allemand après 67, je crois.
Voilà, et qui comprenait la Prusse. Et puis
La Prusse, Hanovre, Mecklembourg, voilà. Tous les États du Nord.
D'accord, merci.
Qui se sont opposés au Sud.
Voilà.
Oui.
Y a-t-il encore une autre... Oui, alors Roger, s'il te plaît.
Alors, c'est une question pour Rainer Schlosser. Tu as dit donc que... Loeffler participe comme médecin à la guerre des duchés, à la guerre du Danemark, du Schleswig-Holstein. Mm-hmm. Est-ce que tu as trouvé des traces de la mission de Louis Appia auprès de ce théâtre de guerre, parce que Louis Appia dit qu'il a parlé à beaucoup de médecins militaires, etc. Est-ce qu'on a des traces de ce passage, mm-hmm, du côté allemand?
Pas encore, parce que je me suis appuyé sur principalement sur les comptes rendus et sur les traités de la Convention de Genève. Donc je n'ai pas lu des traités sur la guerre en Danemark, ni d'autres informations. Donc il faut rechercher plus dans les sources.
Je peux ajouter quelques informations. Appia, il a préparé sa mission assez professionnelle. Donc, en allant au Danemark, il fait un stop-over à Berlin. Il rencontre, je suis presque sûr qu'il rencontre Loeffler. Il faut le contrôler, mais je me souviens. Et d'autres professionnels et le comité prussien, quelques membres du comité prussien, il écrit que c'était peut-être 20 personnes d'une certaine stature sociale, et il était très, très, très intéressé, très observant, il parle avec les gens, et après, on lui donne un escorte, un officier,
qui va avec lui à Schleswig ou Flensburg ou ça. Et donc, il y avait un contact réel pendant plusieurs jours. Et il a écrit sur ça dans ses mémoires de la guerre. Je ne me souviens pas du titre de cet essai, mais il a écrit un rapport, ce qui n'est pas le rapport officiel pour la Croix-Rouge, c'est une sorte de rapport plus pour la public ou, et qui a été publié.
Encore une question, observation, remarque.
Excusez-moi, j'ai encore une question, mais qui va vous s'adresser à vous deux. C'est qu'en Allemagne, il y avait le fameux ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les Johanniter, n'est-ce pas, qui envoie un délégué en octobre 63 à Genève, le prince Henri XIII.
Le prince de Reuss,
c'est ça. Et ensuite, par exemple, lorsque Appia publie son rapport sur la guerre du Schleswig-Holstein, il donne une très belle illustration de soins. Et là, il n'y a pas une croix, c'est en noir et blanc, hein. c'est pas une croix comme notre croix habituelle, c'est la croix des Johanniter. Est-ce que vous avez trouvé des traces, des relations entre cette société prussienne de la Croix-Rouge qui se forme et qui est tout de suite très dynamique, et puis cet ordre de Saint-Jean qui avait une tradition un tout petit peu plus longue, parce qu'il avait eu une grande interruption, je crois qu'il avait été dissous pendant les guerres napoléoniennes, mais il a ressurgi dans les années 1850, je crois. Et est-ce qu'il y a des traces de collaboration, des échanges, etc., entre les deux institutions?
Qui veut répondre en premier?
J'en connais pas les détails, mais il y a des illustrations et des récits que même les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean ont fait de secours blessés sous le signe de la Croix-Rouge, et non pas seulement sous le signe de la croix de Malte. Oui.
D'accord. Vous aviez...
Oui. Il semble que la coopération était très, très, très facile et les Johanniter, à ce temps-là, parce que le comité prussien était justement créé, donc on n'avait pas encore une structure ou une infrastructure, donc pendant cette guerre, les Johanniter, c'était encore les pionniers de l'aide pratique, mais il y avait aussi d'autres ordres et organisations qui participent aussi. Et le nouveau comité central a dirigé toutes les organisations. Donc on a fait un certain pool des organisations, le Johanniter, Maltese et d'autres, et ça a bien fonctionné. Très, très prussien.
Y a-t-il encore une remarque, une observation? Si ce n'est pas le cas, nous allons interrompre cette première session. Nous avons juste respecté le temps, pratiquement imparti. Je tiens personnellement à relever avec beaucoup de sympathie les interventions de nos deux collègues allemands qui se sont exprimés dans un français remarquable et qui ne nous ont pas infligé nécessairement un anglais qui est devenu évidemment un peu la mode de nos jours. En tant que Suisse, j'aurais pu leur dire qu'ils auraient été tout à fait légitimes à parler en allemand, à condition que ce soit plutôt à Genève, en allemand classique, qu'en dialecte. Vous auriez été censé être compris, puisque tous les Genevois ont appris l'allemand. Alors voilà, c'est ça. Alors, nous nous retrouvons, je pense, Roger, vers 3h30. Voilà, parfait. Alors, à tout à l'heure.
Merci.
Vraiment, je vous félicite.